Sixième couplet. L'allure du château. 1. Tout à coup, elle tomba de nouveau dans son corps, et cette sensation appela un souvenir d'un éclat aveuglant. Odetta Holmes a 16 ans, assise sur son lit, en combinaison, dans un rayon de soleil incandescent, enfilant un bas de soie. Tant que le souvenir subsista, elle sentit le parfum White Shoulders et le savon de beauté Pond, tous deux empruntés à sa mère. Et elle, assez adulte pour avoir le droit de porter du parfum, et se disant « C'est le bal de printemps, et j'y vais avec Nathan Freeman. » Puis la vision disparut. Les 12 effluves de savon Pond furent remplacés par une brise nocturne froide et propre, et un peu humide. Et il ne resta plus que la sensation, étrange et parfaite, de s'étirer à l'intérieur d'un nouveau corps, comme s'il s'agissait d'un bas qu'on tire le long du mollet et du genou. Elle ouvrit les yeux. Le vent soufflait en rafale, lui balayant le visage d'un voile de sable. Elle grimaça et leva un bras, comme pour se protéger d'un coup.
« Par ici !»
appela une voix de femme. Ce n'était pas la voix à laquelle se serait attendue Susanna. Pas d'écho strident, pas de croassement triomphal.
« Par ici, à l'abri du vent !»
Elle regarda et aperçut une grande et belle femme qui lui faisait signe. Le premier regard que Susanna porta sur Mia, en chair et en os, la stupéfia. Parce que la mère du petit gars était blanche. De toute évidence, Odetta qui fut avait aussi une personnalité à peau claire, ce qui devait exaspérer la susceptibilité raciale de Detta Walker. Elle-même se retrouvait de nouveau privée de ses jambes, assise dans une sorte de charrette sommaire à une place. Elle était garée dans le recoin d'un mur bas. Du regard, elle balaya le paysage le plus effrayant et le plus inhospitalier qu'elle ait vu de sa vie. De gigantesques formations rocheuses se détachaient sur fond de ciel et se dédoublaient à l'horizon. Elles scintillaient comme des eaux étranges, sous l'éclat d'une lune féroce en forme de faucille. Derrière ce sourire lunaire difforme, des milliards d'étoiles brûlaient telles de la glace en fusion. Au milieu des rochers escarpés, striés de fissures béantes, un étroit sentier solitaire serpentait vers l'horizon. À le regarder, Susanna se dit qu'un groupe qui l'emprunterait ne pourrait le faire qu'en file indienne.
Et en emportant beaucoup de vivres, pas de champignons sur le bord de la route, pas de macrène non plus.
Et au loin, faible et lugubre, montant d'un point caché derrière l'horizon, une lumière d'un cramoisi sombre croissait et décroissait en une pulsation lente.
« Le cœur de la rose, » se dit-elle. Puis, « Non, ce n'est pas ça. C'est la forge du roi. »
Elle contempla un instant la sinistre lumière qui palpitait avec une fascination impuissante et horrifiée. Contraction, décontraction, croissance, décroissance, une infection se déclarant à la face du ciel.
« Si tu dois venir à moi, viens maintenant, Susanna de New York. »
Elle portait un poncho épais et ce qui ressemblait à un pantalon en cuir qui s'arrêtait juste au-dessus du genou. Ses tibias étaient couverts de cicatrices et d'éraflures. Au pied, elle avait des warash à grosses semelles.
« Car le roi peut captiver, même de loin. Nous sommes du côté Discordia du château.
Tu aimerais finir tes jours en palais au pied de ce mur? S'il te captive et t'ordonne de sauter, c'est ce que tu feras. Tes amis pistoleros ne sont plus là pour faire la loi et venir te prêter main forte maintenant, pas vrai? Non pas, non pas. Tu es toute seule, voilà la vérité. Susanna tenta de détourner le regard de l'effroyable lumière rouge qui pulsait, et tout d'abord n'y parvint pas. Elle sentit la panique gagner son esprit. S'il te captive et t'ordonne de sauter, et s'en empara comme d'une matière brute, la comprimant et la modelant en forme de cale, afin de l'enfoncer dans son immobilisme tétanisé. Au début, il ne se passa rien. Puis elle se projeta en arrière dans la petite charrette miteuse, avec une telle violence qu'elle dut s'accrocher au montant pour éviter de basculer sur les pavés. Le vent soufflait à nouveau par rafales, lui fouettant le visage et les cheveux de sable et de gravillon, comme pour se moquer d'elle. Mais cette attraction, cette fascination, ce glame, quel que fût son nom, il avait disparu. Elle jeta un œil au dog-cart. C'est ainsi qu'elle l'appelait, à tort ou à raison, et comprit instantanément comment il marchait. C'était assez simple pour tout dire. Sans mule pour le tirer, c'était elle, la mule. On était aux antipodes du fauteuil pratique et léger qu'ils avaient dégoté à Topeka, et à des années-lumière d'une balade sur des jambes entières, comme celle qui l'avait portée depuis le petit square jusqu'à l'hôtel. Mon Dieu, comme ses jambes lui manquaient. Elle lui manquait déjà. Mais il fallait faire avec. Elle attrapa les roues en bois de la charrette, poussa. Rien ne se produisit. Aussi, elle poussa plus fort. Au moment où elle avait décidé de s'extirper de l'engin pour ramper honteusement jusqu'à Mia, les roues se mirent à tourner en crissant et en couinant. Elle avança en brinque-ballant jusqu'à la jeune femme qui l'attendait derrière un pilier de pierre trapue. Il y en avait un grand nombre, alignés dans le noir, dessinant une courbe. Susanna se dit qu'autrefois, avant que le monde change, des archers devaient venir se mettre à l'abri derrière, pendant que l'armée ennemie chargée à coups de flèches et de boulets enflammés, quel que soit le nom qu'on leur donnait. Puis ils se glissaient dans les recoins et tiraient à leur tour. Combien de temps auparavant? Quel était ce monde? À quelle distance se trouvait-il de la tour sombre? Tout près, lui soufflait son intuition. Elle poussa la charrette récalcitrante et peu maniable à l'abri du vent et leva les yeux vers la femme dans son poncho, honteuse de se trouver aussi essoufflée après avoir parcouru moins de 10 mètres, mais incapable de s'empêcher de halter. Elle prit quelques profondes inspirations de cet air humide sentant la pierre. Elle laissa à sa droite les piliers. Elle croyait se rappeler qu'on les appelait des merlons ou quelque chose dans le genre. À gauche se détachait une flaque sombre et circulaire, cerclée de murs de pierre à demi écroulés. De l'autre côté, deux hautes tours se dressaient contre le mur du fond, mais l'une d'elles avait été brisée, comme par un éclair d'explosif très puissant. Cet endroit où nous sommes s'appelle l'Allure. Le chemin de ronde sur les remparts du château sur l'Abysse, autrefois connu sous le nom de Château Discordia, Tu as dit que tu voulais de l'air frais. J'espère que ça te sied, comme on dit à la Cala. On en est bien loin, Susanna. On est en plein monde ultime, près de là où s'achève votre quête. Pour le meilleur ou pour le pire. Elle marqua une pause puis reprit. Pour le pire, très probablement. Pourtant, je ne m'en soucie pas une seconde. Ça, non, pas moi. Je suis Mia, fille de personne, mère d'un seul. J'aime mon petit gars, rien d'autre. Mon petit gars me suffirait bien si fait. Tu veux palabrer? Très bien. Je te dirai ce que je peux et je serai sincère. Pourquoi pas? Quelle différence ça peut bien faire pour moi?
Susanna balaya les alentours du regard. Lorsqu'elle se retrouva face au château, à la cour centrale, semblait-il, elle perçut un relent de vieille moisissure. Mia la vit plisser le nez et ne put s'empêcher de sourire.
Si fait, tout est mort depuis bien longtemps, et les machines que les suivants ont laissées derrière eux se sont presque toutes arrêtées, mais l'odeur de leur agonie subsiste, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça avec l'odeur de la mort. Demande à ton ami Pistolero, le vrai Pistolero. Il le sait bien, parce qu'il en a eu sa part. Il a une lourde responsabilité, Susanna de New York. Il porte autour du cou la culpabilité des mondes, comme un cadavre en putréfaction. Pourtant, il est allé assez loin, avec sa robustesse et sa détermination aride, pour attirer sur lui le regard des grands. Il sera détruit, si fait, lui et tous ceux qui l'accompagnent. Je porte cette malédiction dans mon propre ventre, mais peu m'importe.
Dans l'obscurité étoilée, elle redressa fièrement la tête. Sous le poncho, ses seins avaient gonflé. Et comme le constata Susanna, son ventre s'était arrondi. Dans ce monde, du moins, Mia était visiblement enceinte. Prête à éclater, pour tout dire.
« Pose tes questions, à l'attaque !» lança Mia. « Rappelle-toi que nous existons aussi dans l'autre monde, celui dans lequel nous sommes liés. Nous sommes allongés sur ce lit, à l'auberge, comme endormis. Mais nous ne dormons pas, n'est-ce pas, Susanna ?»«
Non pas. » »«
Et quand le téléphone sonnera, quand mes amis appelleront, nous quitterons cet endroit pour les rejoindre. Si tu as posé tes questions et obtenu des réponses, parfait. Dans le cas contraire, c'est bien aussi. Demande. Ou bien, n'es-tu pas Pistolero?
Elle retroussa les lèvres en un sourire dédaigneux. Susanna la trouvait coquine.
Oui, coquine.
Surtout pour quelqu'un qui serait bien incapable de dénicher la 46e rue, dans le monde où elle retournerait.
Alors tire, devrais-je dire.
Une fois de plus, Susanna jeta un regard en direction du trou obscur qui constituait le cœur tendre du château, où se cachaient ses donjons et ses lys, ses barbacanes et ses meurtrières, et Dieu savait quoi d'autre. Elle avait suivi un cours d'histoire médiévale et connaissait certains des termes employés, mais c'était longtemps auparavant. Il y avait certainement une salle de banquet, quelque part là-bas, une salle qu'elle avait elle-même remplie de nourriture, du moins pendant un temps. Mais c'en était fini de son rôle de traiteur. Si Mia tentait de la pousser trop fort ou trop loin, elle verrait à qui elle avait affaire. En attendant, elle décida de commencer par quelque chose de relativement facile. Si cet endroit est bien le château sur l'abysse, où se trouve ce fameux abysse? Je ne vois rien dans le coin, à part un champ de mine jonché de cailloux et cette lumière qui rougeoie à l'horizon.
Mia, sa longue chevelure noire voletant autour d'elle, des cheveux comme la soie sans un seul nœud, contrairement à ceux de Susanna, désigna du doigt le gouffre qui s'ouvrait sous leurs pieds et courait jusqu'au mur du bout, d'où s'élevaient les tours, le long de l'allure qui poursuivait sa courbe.
« C'est le donjon intérieur, » dit-elle. « Au-delà se trouve le village de Fédic, aujourd'hui désert. Tous ses habitants sont morts de la mort rouge, il y a 1000 ans, au plus.
Plus loin, la mort rouge ?»
demanda Susanna alarmée, et apeurée malgré elle.
« Comme le masque de la mort rouge de Pau ?
Comme dans l'histoire ?
Et pourquoi pas ? Ils avaient déjà erré dans l'Ose de Frankelbaum, et ils en étaient revenus. Et ensuite, le lapin blanc et la reine rouge?
Jeune dame, je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'au-delà du village désert se trouve le rempart extérieur, et plus loin encore, une énorme crevasse dans la terre, rempli de monstres qui causent, qui entourloupent, qui se multiplient, et qui complotent pour s'échapper. Autrefois, il y avait un pont par-dessus, mais il s'est écroulé il y a bien longtemps. Avant le grand décompte, comme on dit. Ce sont des horreurs qui rendraient une femme ou un homme normal complètement fou au premier regard.
Elle décocha d'ailleurs à Susanna un de ses regards à elle, satirique, impossible de se méprendre.
Mais pas un pistolero, certainement pas un pistolero tel que toi.
Pourquoi te moques-tu de moi ?
Demanda calmement Susanna. Mia eut un petit sursaut, puis prit un air sombre.
C'était mon idée de venir ici, peut-être, dans ce coin triste et glacial, où l'œil du roi salit l'horizon et souille la joue même de la lune de sa lueur répugnante? Non pas, jeune dame, c'était la tienne. Aussi ne me harcèle pas de ta langue de vipère.
Susanna aurait pu lui répondre que ce n'était pas elle qui avait eu la bonne idée de se faire engrosser par un démon. Mais ce n'était décidément pas le moment de se lancer dans une dispute du genre « c'est toi, non c'est toi ».
« Je ne te grondais pas », lui précisa Susanna. « Je voulais juste savoir ».
Mia fit un geste impatient de la main, comme pour dire « « Ne commence pas à chercher la petite bête !»
puis se détourna à demi. Et entre ses dents, elle susurra
« Je ne suis pas allée à Morhaus, je ne suis allée dans aucune maison. Pourtant, quoi qu'il arrive, j'aurai mon petit gars. Tu m'entends ?»
Et soudain, Susanna comprit beaucoup de choses. Mia se montrait ironique parce qu'elle avait peur. Elle avait beau s'en défendre, une bonne partie d'elle était Susanna.
Je ne suis pas allée à Morhaus ni dans aucune autre maison, par exemple. C'était tiré de L'homme invisible, de Ralph Ellison. Quand Mia s'était introduite en Susanna, elle avait récolté, au moins, 2 personnalités pour le prix d'une. Après tout, c'était Mia qui avait fait sortir d'état de sa retraite, ou peut-être de son hibernation profonde. Et c'était d'état qui adorait cette réplique, qui en disait tellement long sur ce sentiment longtemps refoulé par les nègres, ce sentiment de mépris et de suspicion à l'égard de ce qu'on appelait la bonne éducation nègre d'après-guerre.
ni à Morhaus, ni dans aucune maison. En d'autres termes, je sais ce que je sais, je l'ai appris par mes propres moyens, j'ai des oreilles qui traînent. Le téléphone arabe, ça me connaît.
Mia, ce petit gars, il est de qui? Ce démon, son père, qui est-il? Tu le sais?
Mia eut un rictus. Un rictus que Susanna n'aimait pas du tout. Un rictus qui rappelait trop d'état, qui savait trop de choses, plein de rire et d'amertume.
Si fait, je le sais, jeune dame, et tu as raison. C'est un démon qui t'a abusé, un très grand démon à la vérité, un démon humain. Il fallait bien qu'il le soit, car ne sais-tu pas que les véritables démons, ceux échoués sur les rives de ces mondes qui gravitent autour de la tour quand le prime s'est retiré, ces démons sont stériles, et cela pour une excellente raison. Alors comment sait-on Dean, le père de mon petit gars? Répliqua Mia. Roland de Gilead, si fait. Lui et personne d'autre. Stephen Deschaine a fini par l'avoir, son héritier, même s'il n'en sait rien, puisqu'il pourrit dans son caveau.
Susanna la fixait avec des yeux écarquillés, sans se soucier du vent froid qui fouettait les terres perdues de Discordia.
Roland? Ce n'est pas possible. Il était à mes côtés quand le démon se trouvait en moi. Il ramenait Jake de cette foutue baraque de Dutch Hill, et Baiser était vraiment le cadet de ses soucis.
Elle laissa ses pensées errer, pensant au bébé qu'elle avait vu dans le Dogan. Elle revoyait ses yeux bleus de bombardier.
Non, non, je refuse de le croire.
Comme tu voudras, mais Roland est bien le père, insista Mia. Et quand le petit gars sera là, je lui donnerai le nom que tu as en tête, Susanna de New York, celui que tu as appris du temps des merlons et des trébuchets et des barbacanes. Et pourquoi pas, c'est un beau nom, un nom noble.
L'introduction à l'histoire médiévale du professeur Murray, voilà de quoi elle parle.
« Je vais l'appeler Mordred, » ajouta-t-elle. « Il grandira vite, mon garçon chéri, plus vite que les humains. Du fait de sa nature de démon, il deviendra grand et fort. L'incarnation du pistolero dans toute sa splendeur. Et alors, comme le Mordred de ton conte, il tuera son père. »
Et sur ces mots, Mia, fille de personne, leva les bras vers le ciel constellé d'étoiles et poussa un hurlement de chagrin, de terreur ou de joie.
Susanna ne sut le dire.